Moi aussi, de ma part, je voudrais vous souhaiter à tous la bienvenue, vous saluer dans le nom précieux du Seigneur et souhaiter à tous de tout mon cœur la bienvenue. Et vous savez, quand on parle beaucoup, la voix s'use un peu, mais dans le cœur, on est et on reste frais. Je suis, pour hier soir, particulièrement très reconnaissant. Et je pouvais dire entièrement amen à ce que frère Rousse disait. Les réunions sont à chaque fois toujours plus puissantes et nous comprenons toujours plus de ce que Dieu a fait. La signification de ces choses, le sens et l'objectif lié à cela, lié à ce qui s'est vraiment passé. À l'époque de Jésus, c'était justement le service prophétique qui était la division, était la chose même qui divisait les esprits. Les uns disaient, personne ne peut faire ses œuvres si ce n'est que Dieu est avec lui. Et les autres le soupçonnaient d'être Belzébuth et d'être en ligue avec le diable. Les uns acceptaient, recevaient, les autres rejetaient. Les uns ont été bénis et les autres sont repartis vides. C'est la même chose. C'était le cas aussi dans notre génération. Les miracles et les signes seuls, c'est pas ce qui a été la chose, mais ce don spécial de la révélation, c'est ça qui a divisé les esprits. Parce que avec des signes et des prodiges et des miracles, beaucoup, au moins quelques centaines, pouvaient se faire voir et se faire entendre. Mais le don que frère Branham avait comme signe direct du Messie, personne n'avait, aucun n'avait, aucun l'aura. Et il ne peut pas être imité non plus, car c'était le dernier signe qui a été donné à l'Église. Et ça aussi, je l'ai déjà expliqué ici, ou bien je l'ai déjà dit, comment est-ce que l'ange de l'Éternel, n'est-ce pas, a cité à frère Branham les différents versets bibliques. Il lui a cité Jean chapitre 1, Jean chapitre 4. Il s'est référé au service de Jésus autrefois et il lui a expliqué que le Seigneur était à l'époque seulement allé aux Juifs et ensuite aux Samaritains, mais pas aux nations. Mais que maintenant, le temps des nations est arrivé et que le temps des nations est venu et que leur fin approche et que le même service et le même don est maintenant donné à l'Église comme dernier signe pour pouvoir se décider, pour que l'Église puisse se décider. Qui a reconnu cela? Donc, il ne s'agit pas seulement que nous nous concentrons sur un homme avec un service et le plaçons au centre. Non. Nous nous concentrons sur Jésus-Christ. Il s'agit de nous concentrer sur Jésus-Christ, notre Seigneur lui-même, et c'est lui que nous plaçons au centre de tout. Lui qui a utilisé un homme et savons que c'est Dieu qui a fait ces choses. Avez-vous vu à quel point frère Branham était impuissant et disait, je ne peux rien faire de moi-même? Mais c'est le Seigneur qui l'a fait. Et pour cela, nous en sommes très reconnaissants. Mais comme déjà dit, qui l'a reconnu? À qui est-ce que le bras de l'Éternel a été manifesté, révélé? J'ai entendu des prédicateurs très respectés porter leur jugement sur frère Branham en son temps. C'était vraiment un coup de poignard dans le cœur d'entendre cela. Mais cela se répète. Comme autrefois, c'est comme ça que maintenant cela doit être le cas. Alors que le Seigneur pouvait dire à tous, aux gens, c'était pour ceux à qui il s'est adressé, c'était précieux. Mais les autres ont soupçonné. Alors qu'il disait à la femme au puits, ce qui la concernait, elle était enthousiasmée Étonnée, elle a couru dans la ville et a dit, mais venez et voyez, qui est-ce que j'ai rencontré? N'est-il pas le Messie? Elle a évangélisé. Ça aussi, c'est permis aux sœurs. Chaque sœur peut rendre témoignage de ce qu'elle a expérimenté personnellement avec le Seigneur. Mais si elle ne le fait pas, ça veut dire qu'elle n'a rien expérimenté avec le Seigneur, peut-être. Mais si une sœur, mais quand une sœur prend la Bible entre les mains et veut enseigner, ça veut dire qu'elle a complètement, entièrement perdu sa place. Non, non. Tout, toujours dans le contexte juste et à la bonne place. C'est comme le Sauveur autrefois pouvait dire aux deux disciples, allez à la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Parlez-lui et dites-lui dans ta maison, le maître, le Seigneur veut tenir le souper. Marc 14, verset 13 à 14, il pouvait dire aux deux autres, allez au village qui est devant vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un anneau avec elle, détachez-les, car le Seigneur en a besoin. Matthieu 21, verset 2, c'est comme ça que les Écritures se sont accomplies. Il pouvait dire à Pierre, dans Matthieu 17, verset 27, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra, ouvre-lui la bouche et il a de l'argent dans sa bouche. Donc, prends l'argent et donne l'argent pour l'impôt pour toi et pour moi. Le Seigneur avait ce service prophétique et la même chose s'est répétée dans notre époque. Dans l'Ancien Testament, c'était ainsi. Alors que le Seigneur était venu à Abraham avec deux anges, selon Genèse chapitre 18, et le Seigneur, n'est-ce pas, pouvait dire à Abraham ce que Sarah, derrière lui, dans la tente, pensait dans son cœur. Et il a demandé à Abraham, mais pourquoi est-ce qu'elle a ri? Mais elle était dans la tente, il ne la voyait même pas. Mais il a malgré tout pu connaître et révéler les pensées de son cœur. C'est ça le service prophétique. Et le Seigneur a dit, tel que c'était du temps de Sodome et Gomorre, c'est ainsi que ce sera dans les jours du Fils de l'homme. Remarquez bien cette désignation, pas dans les jours du Fils de Dieu, pas dans les jours du Fils de David, mais c'est ainsi que ce sera dans les jours du Fils de l'homme. Prophétique, Fils de l'homme, prophète, Fils de Dieu, Sauveur, Rédempteur, Fils de David, Roi. Donc, tout de nouveau ordonné, classé dans l'ordre biblique. Et ça, je l'ai déjà mentionné, alors que Jean était sur l'île de Patmos, il avait vu un qui marchait parmi les sept chandeliers d'or. Qu'est-ce que, ou bien alors, comment est-ce qu'il le voyait? Il le voyait comme Fils de l'homme. Et ça, nous devons être attentifs à cela. Et là, donc, faire attention à cela. Et là aussi, chaque désignation a sa place dans le contexte précis dans lequel cette désignation a été donnée et est donnée. Aujourd'hui, nous allons continuer avec plusieurs comparaisons. J'espère que la parole, même si je parle lentement, qu'elle a un impact rapide, un effet rapide. Êtes-vous dépendant de comment est-ce que le prédicateur ici devant prononce les choses? Non, sûrement pas. Car, et ça je veux encore vous le dire, notre Seigneur avait lu du prophète Ésaïe et ensuite il s'est assis. Il n'a même pas fait une démonstration de puissance. Il a seulement lu et il s'est assis. Et des paroles précieuses sont sorties de sa bouche. Et les gens étaient étonnés. Et on dit, mais il enseigne avec autorité divine. Mais qui est cet homme? Et c'est ainsi que nous voulons permettre à la parole, lui donner la chance de produire en nous ce qui est agréable à Dieu. Et exécuter la volonté de Dieu et produire son effet et l'effet pour lequel elle a été envoyée. Je crois que ces choses deviennent toujours plus grande pour nous, précieuse pour nous, de ce que nous avons le privilège à la fin du temps de la grâce, de vivre à la fin du temps de la grâce et d'avoir le privilège de ne pas faire des énigmes et de ne pas non plus interpréter et expliquer, mais de recevoir la révélation claire de Dieu et de la parole de Dieu. Oui, tout le dessein du salut de Dieu, et cela par révélation, de le voir. Le Seigneur ne nous parle pas en parabole, non plus en énigme. Il parle librement, ouvertement, avec nous tous. Et ce qui, auparavant, était caché, est maintenant révélé. Nous avons aussi vu que les différents contextes dans les Saintes Écritures deviennent toujours plus clairs pour nous. Nous voyons les relations entre les versets bibliques, les uns avec les autres, de l'Ancien au Nouveau et du Nouveau à l'Ancien Testament. Et nous voyons là une harmonie céleste. Et pour cela aussi, nous en sommes très reconnaissants à Dieu. Je pense que avec droit, nous pouvons dire, dans le déroulement des années passées, Dieu nous a aidés et nous a fait passer de clarté en clarté, nous a conduit de clarté en clarté, et ça, il continuera à le faire. C'est aussi notre désir dans ce lieu, que vous, qui n'avez pas épargné vos efforts et vos frais, que vous en ayez pour votre argent, spirituellement, parlant spirituellement, que la parole de Dieu devienne précieuse pour vous, que personne n'ait à dire que peut-être que j'aurais pu m'épargner ce voyage, mais que tous puissent dire c'était bon d'avoir été dans la réunion, d'avoir été ici, que tous tout le monde ait été heureux de la parole, particulièrement quand je pense à nos bien-aimés frères et sœurs de la Finlande, qui ont entrepris un tel long voyage. Ils vont m'excuser si je fais cette remarque. Un vol aller-retour de Düsseldorf à New York coûte moins cher qu'un vol aller-retour de Düsseldorf à Helsinki. Il y a aussi différentes choses dans le domaine aérien. Et quand on sait combien coûte de tels voyages et que les gens même épargnent toute une année pour pouvoir venir écouter la parole de Dieu, alors on sait quel désir ils ont après la parole de Dieu. Que Dieu puisse vous bénir, que Dieu puisse être avec vous. Même si nous ne le disons pas toujours ainsi, mais nous portons cela dans nos cœurs, croyez-nous. Nous n'avons pas de yeux fermés, de oreilles fermées non plus. Non, nous voyons et nous entendons, mais Dieu, lui, y voit encore plus. Dieu voit le désir, il voit le cœur et il répondra à nos besoin. Que son saint nom soit loué et exalté, son nom saint et merveilleux. Nous voulons, avec l'aide de Dieu, continuer avec l'observation de la parole. Nous lisons de l'évangile de Matthieu, le chapitre 23, verset 9, une parole très connue de nous tous. Matthieu, chapitre 23, ou bien alors peut-être le verset 9 pour le moment. Ici, il est écrit: et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Vous allez tout de suite remarquer où est-ce que cela mène. Peut-être que déjà vous remarquez déjà, nous allons tirer des comparaisons pour vous montrer que dans chaque domaine, nous avons besoin de compréhension spirituelle. D'un côté, il nous est dit de n'appeler personne Père sur terre, car un seul est notre Père, celui qui est dans les cieux. Et d'un autre côté, Paul dit: en Christ, je suis devenu votre Père par l'Évangile. Alors, comment est-ce qu'on peut là connecter les choses? Comment est-ce qu'on peut les unir? Continuons à lire. Dans Romains, chapitre 4, Romains chapitre 4, versets 11 et 12. Ici, il est écrit concernant Abraham. Tous nous connaissons cette écriture. Romains, chapitre 4, versets 11 et 12. Et le signe extérieur de la circoncision, il le reçoit alors comme un sceau de la justice de la foi qu'il possédait dans l'état d'incirconcision. Il devait ainsi devenir le père de tous ceux qui croient sans circoncision, afin que la justice leur soit imputée. Et le père des circoncis, c'est-à-dire de ceux qui non seulement lui appartiennent en vertu de la circoncision, mais marchant aussi sur les traces de la foi que notre père Abraham possédait déjà à l'état incirconcis. Jésus dit, vous n'appellerez personne votre père, car un seul est votre père, et c'est celui qui est aux cieux. Ici, Paul écrit aux Romains dans ses brefs versets et deux fois en relation avec Abraham, père des circoncis, père des incirconcis, et il résume et il écrit comme nous le lisons à la fin du verset, nous l'avons lu à la fin du verset 12. Mais marchant aussi, donc père de ceux qui marchent aussi sur les traces de la foi que notre père Abraham possédait déjà à l'état incirconcis. Romains 4, verset 12. Donc nous remarquons que ici il y a des différences. Et nous lisons, nous continuons à lire avant ensuite d'arriver au point culminant. Romains chapitre 4. Donc, dans le même chapitre, ici nous lisons le verset 16 et 17. Romains chapitre 4, versets 16 et 17. C'est pourquoi la promesse de l'héritage est conditionnée par la foi, car elle doit être un don de la grâce, afin que la promesse soit valable pour toute la postérité et non seulement pour ceux qui sont sous la loi, mais aussi pour ceux qui croient comme Abraham, qui est notre Père à tous. Selon l'Écriture, je t'ai fait Père d'une multitude de nations. Je t'ai fait père, ou bien alors je t'ai déterminé à être père d'une multitude de nations devant le Dieu auquel il a cru, comme celui qui donne la vie aux morts et nomme ce qui n'existe pas encore, comme si c'était déjà là. Et aussi ce verset ici, pour le relever, Abraham croyait Dieu. Il croyait Dieu en chaque circonstance et en chaque relation, et il n'a pas seulement cru Dieu des lèvres, mais il a honoré Dieu pas seulement des lèvres, mais par la foi et par l'obéissance, alors qu'il devait sacrifier Isaac. Abraham savait qu'il reviendrait avec lui. Il croyait que Dieu allait le ressusciter des morts. Après 3 jours de voyage, s'est adressé aux esclaves serviteurs et il leur a dit, restez ici, moi et mon fils, nous allons adorer et ensuite nous reviendrons. Et Abraham savait exactement qu'il avait à le sacrifier, et malgré tout, dans son cœur, il savait que Dieu allait ensuite le ressusciter des morts. Nous continuons à lire au prophète Ésaïe, dans le prophète Ésaïe maintenant, le chapitre 63. Ésaïe, chapitre 63. Ici, le prophète a fait une déclaration très puissante dans l'Ancien Testament. Vous savez que le prophète Ésaïe était l'un de celui qui avait reçu plus de grâce en ce qui concerne le conseil du salut, l'histoire du salut de Dieu en ce qui concerne ces choses. Ésaïe 63, verset 16. Car tu es notre Père. Abraham ne sait rien de nous et Israël ne nous connaît pas. Toi, Éternel, tu es notre Père et ton nom est notre Rédempteur depuis l'éternité. Ton nom est notre Rédempteur depuis l'éternité. Vous remarquez ici, il s'agit de la foi, il s'agit de la certitude, de l'assurance, du savoir. Le Seigneur est notre Rédempteur. Et il dit, Éternel, tu es notre Père, tu es notre Rédempteur. Jacob ne nous connaît pas. Nous continuons à lire dans Jacques, le chapitre 2, Jacques, chapitre 2, verset 21. Jacques, chapitre 2, verset 21. Notre père Abraham n'a-t-il pas été justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel des sacrifices? De nouveau, ici, cette façon de parler, notre père Abraham, notre formulation. Mais nous devons appeler personne notre père sur terre, encore moins nous ne devons appeler personne père sur terre, encore moins dire notre père. Mais je crois que Dieu nous montre, Dieu nous révèle ici de quoi il s'agit. Abraham était sur terre, mais c'est une grande différence. Est-ce que quelqu'un est appelé, est désigné par Dieu père? Par exemple, comme Paul écrit, ou bien alors Jean écrit dans l'une de ses épîtres, dans 1 Jean 2, « Je vous écris à vous, Père, en Christ. » Et il y a une différence selon qu'il s'agit d'une justification spirituelle et divine et que c'est Dieu qui désigne quelqu'un de Père, qui détermine quelqu'un à être Père, ou qu'un être humain s'approprie la désignation du Père céleste et se fait appeler par le monde entier de sainte majesté, dignité, honneur sacré, et Saint-Père, etc. Et se laisse désigner de toutes sortes de titres. C'est une grande différence. Ou bien alors, est-ce que le peuple d'Israël, avec droit, peut dire que Abraham est notre père parce qu'il croyait Dieu? C'est Dieu qui le désigne ainsi comme exemple à suivre. Ça, c'est une grande différence entre le ciel et la terre, comme éloigné du ciel et la terre. Nous le lisons maintenant dans 1 Corinthiens, chapitre 4. 1 Corinthiens, chapitre 4. Ici, nous lisons le verset 14 jusqu'au verset 16. 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 14 jusqu'au verset 16. Je n'écris pas cela pour vous faire honte, mais pour vous avertir comme mes enfants bien-aimés. En effet, si vous avez eu plusieurs milliers de maîtres dans le Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, car dans le Christ Jésus, je suis devenu votre père par la prédication du message du salut. Est-ce que vous remarquez comment est-ce que l'Esprit de Dieu, d'une manière merveilleuse, accorde au peuple de Dieu l'enseignement, le discernement, l'ordre, et accorde par sa grâce de classer les choses dans l'ordre biblique? Nous remarquons très exactement, si Paul dit ici que par Christ, dans l'annonce de la prédication du message de salut, je suis devenu votre père spirituel. Alors cela a sa justification. Mais si quelqu'un, comme déjà dit, s'approprie ce titre et se laisse appeler Saint-Père, alors ça c'est un blasphème qui dépasse toute mesure. Il n'y a qu'un seul Saint-Père, un seul Père Saint, et il est au ciel. Il n'y en a pas un deuxième. Et si quelqu'un ose se faire appeler comme ça, alors nous avons le discernement et nous pouvons savoir comment classer cet homme, c'est-à-dire comme celui qui se donne le droit de se lever au-dessus de tout ce qui est appelé Dieu ou alors culte rendu à Dieu, adoration. Dieu nous permet de discerner les choses et les voir telles qu'elles sont. Continuons à nous dépêcher. Nous repartons à Matthieu 23, car là, il y a encore d'autres titres, désignations qui sont écrites que nous n'avons pas encore relevées jusqu'à maintenant. Dans Matthieu 23, le verset 10, il est écrit maintenant, « Ne vous faites pas appeler, écoutez bien s'il vous plaît, enseignant, ne vous faites pas appeler enseignant, car un seul est votre enseignant, le Christ. » Mais maintenant, ça devient très intéressant. Aussi enseignant, vous n'avez pas le droit de vous laisser appeler. Car un seul est votre enseignant, et c'est le Christ. Mais dans ces jours, nous avons insisté là-dessus, qu'ils seront tous appelés, enseignés de Dieu. Bon, mais je continue à lire maintenant dans 1 Corinthiens, chapitre 12. Et maintenant, plusieurs pourront dire « Amen ». S'ils l'ont compris. C'est seulement toujours quand on a compris quelque chose qu'on doit dire Amen. En fait, le Amen, j'aime bien l'entendre. Ça veut dire que cela soit ainsi. Car ceci est ainsi. Amen, ça veut dire c'est ainsi. Que cela soit ainsi. Et si c'est ainsi, alors on peut dire Amen. Mais là, je pense, peut-être pour amuser un peu, c'est une heure biblique dans la présence de Dieu et Dieu a parfois du sens pour l'humour. Il y a un prédicateur. Un prédicateur pentecôtiste qui avait parlé dans une église baptiste. Et le prédicateur n'était pas là, mais les anciens étaient là. Et alors pour eux, en fait, ils voulaient qu'ils arrêtent de prêcher. Ils étaient assis devant et ils ont dit « Amen ». Et lui se sentait confirmé et il a continué encore à prêcher. Et ils voulaient qu'il arrête de prêcher. Et lui, il a continué à prêcher. Et ils ont dit « Amen ». Et lui, il a continué encore à prêcher. Et ça continuait comme ça. Eux, ils disaient... Alors, l'un a dit... Chacun, et lui, il a continué encore à parler. Et chacun disait « Amen, Amen, Amen ». Mais « Amen », pour qu'il puisse arrêter de prêcher « Amen ». Mais lui, il pensait que c'était parce qu'ils reçoivent la parole. Vous savez, même quand quelqu'un dit « Amen », on doit bien comprendre ce que son « Amen » pourrait dire. Donc, 1 Corinthiens, chapitre 12. 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 28. 1 Corinthiens 12, verset 28. Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres. Deuxièmement, des prophètes. Troisièmement, des enseignants. Mais attends, comment est-ce que nous devons maintenant de nouveau ramener cela sur un dénominateur commun? Vous devez ne vous laissez pas appeler enseignant, car un seul est votre enseignant, c'est le Christ. Et ici, il est dit que Dieu a établi dans l'Église des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement et tous ces différents services des enseignants. Continuons à lire. Actes des apôtres, chapitre 13. Actes des apôtres, chapitre 13, verset 1. En ce temps-là, à Antioche, les prophètes et les enseignants suivants travaillaient ensemble dans l'église de cette ville. Les enseignants suivants travaillaient ensemble dans l'église de cette ville. Donc ici, ensuite, leurs noms sont nommés. Ici aussi, déjà, nous remarquons tout de suite de quoi il s'agit. C'est une grande différence. Est-ce que quelqu'un se fait rendre hommage avec un titre? Il y a une différence entre quelqu'un qui accepte les hommages avec un titre ou bien alors entre quelqu'un qui a été nommé, établi par Dieu et qui a une tâche divine dans l'Église à exécuter. Ça, c'est une grande différence. Paul dit de lui, par exemple, la chose suivante dans 1 Timothée, le chapitre 2, au verset 3. 1 Timothée, chapitre 2, verset 7. 1 Timothée, chapitre 2, verset 7. Ici, il est écrit la chose suivante. Avez-vous tous ouvert le verset 1 Timothée, chapitre 2, verset 7. C'est pour ce témoignage que j'ai été appelé à être prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas, établi comme enseignant des païens dans la foi et la vérité. Aussi ici, nous pourrions citer tout un nombre de versets bibliques, que ce soit Éphésiens, chapitre 4, verset 11, et beaucoup d'autres écritures, ou bien versets. La différence est que Dieu établit, et que ceux que Dieu établit n'accepteront jamais d'être appelés ou désignés par un titre qui appartient à leur tâche et appel. Et je vais vous dire aussi pourquoi. Ils n'ont pas le droit de le tolérer et de le permettre. Ils ne peuvent même pas, quelqu'un qui est vraiment établi de Dieu ne peut même pas accepter et tolérer cela. Par exemple, quelqu'un qui connaît le domaine anglophone, il constatera la chose suivante. Que ce soit en Angleterre, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Australie, que ce soit en Nouvelle-Zélande, que ce soit partout dans les domaines, dans les pays anglophones, tout ce qui était britique ou bien est britique, là, le pasteur, il n'a plus de nom, hein. Il n'y a plus, ce n'est plus monsieur tel et tel, monsieur tel ou bien frère, c'est seulement le pasteur. Donc, monsieur pasteur, le pasteur, il n'a plus de nom. À chaque fois qu'il veut parler de lui, il dit pasteur. Et le pasteur n'a plus de place dans la porte. Frère Franck fait un jeu de mots. Tor veut dire porte en anglais. Pastor. Il n'a plus de passe, il peut plus passer par la porte. Tous ses titres. Et aussi le pasteur, car le mot pasteur veut dire en fait berger. Mais si le pasteur est vraiment un berger, et ça c'est encore la grande question. Si vraiment il avait été établi vraiment par Dieu, il n'allait jamais se laisser appeler d'un tel titre. Jamais. Croyez-vous cela à 100%. Et ça c'est la grande différence. Imaginez-vous que quelqu'un était venu à Paul, il aurait dit, oh, bien-aimé apôtre. L'apôtre, Paul aurait dit, je t'aime, bien-aimé frère, mais voilà la porte sort. Non, un homme de Dieu va donner tout l'honneur au Seigneur et il va jamais accepter des honneurs, encore moins des titres, c'est pas possible. Celui qui le fait, celui qui le tolère, celui qui l'accepte, n'a pas été établi par Dieu. Bien au contraire, nous avons à apporter le propre du Christ. Je vous lis encore quelques écritures là-dessus. L'un dans le prophète Ésaïe, le chapitre 30. Ésaïe, le chapitre 30, verset 19 et 20. Ésaïe, chapitre 30, verset 19 et 20. Ésaïe, chapitre 30, verset 19 et 20. Ici, il est écrit la chose suivante. Oui, peuple de Sion, qui habitait Jérusalem, tu ne pleureras pas sans cesse. Certes, il te fera grâce de ton appel au secours. Dès qu'il l'aura entendu, il t'exaucera. Et bien que le Tout-Puissant vous donnera le pain de la tribulation et l'eau de la détresse, mais tes enseignants n'auront plus à se cacher, mais tes yeux contempleront ceux qui t'enseignent. C'est étrange, hein? Nous ne devons pas nous laisser appeler enseignants. Et ensuite, ici, il n'est pas seulement parlé d'enseignants, mais de tes enseignants. Donc, des hommes qui ont été établis par Dieu comme enseignants, c'est-à-dire des gens qui ont cette tâche d'enseigner avec véracité la parole de Dieu, comme notre Seigneur, comme il a été dit de notre Seigneur autrefois lui-même, qu'avec véracité, il lui a été dit, nous savons qu'avec véracité, tu enseignes le chemin de Dieu. Et qu'est-ce que notre Seigneur a dit? Celui qui veut faire la volonté de Dieu saura que cet enseignement vient de Dieu. Donc, qui saura si un enseignement vient de Dieu ou pas? S'il est prêt à faire la volonté de Dieu. Mais si cette personne n'est pas prête à faire la volonté de Dieu, alors l'enseignement lui restera caché. L'enseignement restera pour lui une folie. Il n'est pas lui-même, il n'a pas encore lui-même été classé. Et c'est peut-être raison qu'il ne peut pas lui-même classer les choses dans l'ordre biblique. N'est-ce pas ce qui appartient au royaume de Dieu? Celui qui veut faire la volonté de Dieu reconnaîtra, comprendra, saura si un enseignement vient de Dieu ou pas. Mais si nous venons seulement dans une réunion pour tirer des comparaisons, si ce qui est prêché est en accord avec ce que nous savons déjà, alors sûrement que nous trouverons beaucoup de choses qui sont nouvelles pour nous, mais nouvelles ne veut pas dire qu'elles sont fausses. Nouvelles veut seulement dire qu'auparavant, nous les avons jamais vues et écoutées. Et il y a tout un nombre de choses que nous n'avions pas entendues auparavant, mais qui, par l'Esprit de Dieu, nous ont été ensuite révélées. Encore très rapidement, cette comparaison avec le mot « maître », ça appartient à la désignation d'enseignant dans Matthieu 23. Matthieu, chapitre 23, et ici c'est le verset... Je crois que c'est le verset 8. Matthieu 23, verset 8. Mais vous ne vous faites pas appeler maître, car un seul est votre maître, et vous êtes tous frères. Donc vous remarquez déjà de quoi il s'agit ici. Il n'est pas permis d'avoir une hiérarchie dans l'Église. Les services, les tâches, les devoirs et les dons sont différents. Mais devant Dieu, nous sommes tous égaux. Il n'est pas permis d'avoir des hiérarchies. Seulement la mauvaise direction sous les œuvres des Nicolaïtes et beaucoup d'autres ont émergé et se sont distingués du peuple pour être quelque chose de spécial. Voilà le peuple et nous sommes les serviteurs. Non, un seul est maître et tous nous sommes des frères. Et nous avons seulement différentes tâches, que ce soit dans le domaine terrestre, mais dans le royaume de Dieu. Mais il n'y a pas de différence de personne. Tous, nous sommes au même niveau. La même instruction qui vient par la parole de Dieu est adressée aussi à celui par la bouche duquel elle est apportée. Elle lui est adressée au même titre que ceux qui l'écoutent. Oui, il n'y a pas de différence. Ce sont les hommes qui font cette différence. Il n'y a pas de différence devant Dieu. Et ça, nous devons le savoir. Est-ce que vous savez que même il y a quelqu'un qui est venu à notre Seigneur et qui lui a dit « Bon maître ». Et le Seigneur directement lui a fermé la bouche et lui a dit « Mais quoi ? Personne n'est bon en dehors de Dieu seul ». Je ne voudrais pas essayer de rentrer dans ces détails, mais j'espère que mes frères de l'Afrique ne vont pas écrire cela à Kinshasa. Lors de mon dernier voyage là-bas à Kinshasa, l'avocat disait toujours qu'il avait à diriger les choses. Il me disait, vous êtes notre maître. Si cela était, bon, tu es notre maître. Mais j'avais déjà compris. Et je l'ai corrigé tout de suite. Je lui ai dit, mais quoi, mon bien-aimé frère? S'il te plaît, je ne veux plus jamais encore entendre ça. Il a dit, mais oui, mais tu es en face des autorités, à cause des autorités. Tu es le responsable. Donc, je lui ai dit, mais donc, écris sur le protocole, responsable, mais pas un titre. Ne me donne pas un titre. Et là, il y a eu une belle correction. Et ensuite, ils ont été même reconnaissants, ils ont accepté cela. L'Esprit de Dieu en nous va résister à tout ce qui ne vient pas de Dieu. Nous n'avons pas besoin d'honneur et d'être honorés par les hommes. Qu'est-ce que Jésus-Christ disait lui-même? Je n'accepte pas les honneurs qui viennent des hommes. Et disait à ceux qu'il écoutait, pour lui, il s'agissait de l'honneur qui vient de Dieu. Et il a même dit à ceux qui l'écoutaient, vous êtes ceux qui acceptent l'honneur des uns des autres. Mais, et vous ne cherchez pas l'honneur qui vient de Dieu. Jean 5, verset 41 et verset 44. De quoi il s'agit pour nous? Il s'agit pour nous de ce que Dieu soit honoré, que Dieu soit glorifié et que son peuple, dans sa parole, soit instruit ainsi à ce que tous, nous puissions croire la même chose, avoir le même langage, avoir la même connaissance et marcher dans le même pas en toutes choses avec notre Seigneur ensemble, aller de l'avant. Il y a encore une autre comparaison de l'évangile de Jean, en commençant avec l'évangile de Jean, dans le chapitre 15, dans Jean, chapitre 15, verset 15. Ici, notre Seigneur dit, je ne vous appelle plus esclave serviteur, car l'esclave serviteur ne comprend pas les actions de son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai entendu de mon Père. Donc, ici, nous venons à cette expression esclave-serviteur, ou bien alors esclave-serviteur au pluriel. Je ne vous appelle plus esclave-serviteur, car l'esclave-serviteur ne comprend pas les actions de son maître. Ici, il y a aussi deux termes, l'un vu terrestrement et l'autre quand on le considère divinement. Vous allez tout de suite constater que Paul s'est désigné aussi esclave-serviteur de Christ. Mais Jésus a dit, je ne vous appelle plus esclave-serviteur. Frère Branham aussi a utilisé hier soir dans le film, de la même manière aussi, cette expression prophète et aussi cette expression esclave-serviteur. Crois-tu que je suis le prophète de Dieu? Crois-tu que je suis son esclave-serviteur? Alors, mais le Seigneur dit ici, je ne vous appelle plus esclave-serviteur, car l'esclave-serviteur ne comprend pas les actions de son maître. Nous continuons à lire. Philippiens, chapitre 1. Philippiens, chapitre 1, verset 1. Nous, Paul et Timothée, esclaves serviteurs du Christ Jésus, nous saluons tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, etc., etc. Ainsi que les anciens, les édiacres de l'Église qui se trouvent. Ici, Paul inclut Timothée et écrit « Nous, Paul et Timothée, esclaves serviteurs du Christ Jésus. » Oui, mais comment est-ce que alors nous devons classer cela? Je continue à lire. Romains, chapitre 6. Romains, chapitre 6. Et ici, c'est le verset 22. Romains chapitre 6, verset 22. Mais maintenant que vous avez été libérés du péché et que vous êtes devenus des esclaves serviteurs de Dieu, vous avez pour fruit la sanctification et pour fin la vie éternel. Ici, il est parlé d'esclaves serviteurs de Dieu. Et là, nous venons déjà maintenant aux différences des choses. Paul écrit aux Galatiens, tant que le Fils est enfant, entre lui et un esclave serviteur, il n'y a pas de différence. Mais ensuite, quand le Fils devient adulte et peut entrer dans l'héritage, alors là, on remarque la différence. Donc, de quoi il s'agit? Vous savez, le peuple d'Israël, en général, est appelé esclave serviteur du Seigneur, de l'Éternel. Aussi, Jésus est appelé esclave serviteur aussi. Et aussi, les hommes de Dieu étaient des esclaves serviteurs. Donc, de quoi il s'agit? Vous n'êtes plus sous la servitude. Vous n'êtes plus esclave du péché. Vous êtes comme libre dans la position de fils. Ça, c'est une chose. Maintenant, quand il y a un appel au service, alors on peut être les deux, on peut être en même temps enfant de Dieu et en même temps esclave serviteur de Dieu. Mais la relation que nous avons avec Dieu est une relation père fils. Nous ne vivons pas sous la servitude pour devoir encore craindre. Nous avons été libérés et nous pouvons dire « Abba, Père ». Et comme déjà dit, quand le Seigneur prend quelqu'un à son service, alors la personne doit le servir, doit faire sa volonté. Et si c'est un appel au service, alors ce sont des esclaves serviteurs. Vous comprenez? Donc, dans le sens qu'ils doivent servir, c'est-à-dire faire ce qui est agréable à leur maître. Donc, il est très important toujours de cadrer le contexte et le sens d'un verset. Je me rappelle alors que pour la première fois, il y a quelqu'un qui lisait mon témoignage, mais alors qu'il le lisait, qu'il écoutait, il a utilisé ce verset même de Jean 15, verset 15, et m'a dit, mais frère Franck, si le Seigneur t'a désigné esclave serviteur, alors cela n'est pas correct. Il y a des hommes qui osent même réprimander Dieu. Il y a vraiment des hommes, ils vont au-delà de toute mesure. Bien sûr que je n'ai pas réagi, mais on remarque que l'ignorance des hommes, et avec leur ignorance, parfois même, ils ont un peu de... Ils lisent cela. L'ignorance est liée à la méchanceté. Ils se réfèrent à un verset, je ne vous appellerai plus esclaves serviteurs, mais qui n'ont même pas compris. Jean 15, verset 15, parce qu'ils n'ont pas de relation avec Dieu et qu'ils ne savent pas de quelle manière Dieu agit et Dieu parle. Mais continuons à lire maintenant dans Actes des Apôtres, le chapitre 3. Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 13. Ici, il est écrit la chose suivante. Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 13. Non, le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son esclave serviteur Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate alors qu'il avait décrété sa libération. Je peux tout de suite lire au moins 3 versets bibliques dans lesquels le Seigneur, de la même manière, est désigné d'esclave serviteur. Vous pouvez le lire dans les prières de l'Église du Nouveau Testament, dans Actes des Apôtres, le chapitre 4, à partir du verset 29. Actes des Apôtres, chapitre 4. Oui, peut-être même à partir du verset 27, pour encore une fois inclure aussi cette parole avec le reste. Actes apôtres 4, verset 27. Oui, en vérité, contre ton saint esclave serviteur, Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les païens et la foule d'Israël pour accomplir toutes les choses que ta main et ton conseil ont prédestinées à se réaliser. Et maintenant, Seigneur, regarde leurs menaces et donne à tes esclaves serviteurs la puissance de proclamer ta parole en toute hardiesse. Donc, ici, le Seigneur est appelé saint esclave serviteur, et ceux qu'il a appelés, il les désigne aussi ses esclaves serviteurs, que Dieu leur accorde la puissance de proclamer sa parole en toute hardiesse. Donc, nous voyons aussi dans ce point que les versets bibliques doivent être mis ensemble dans la balance. On doit exactement savoir de quoi ici ce verset traite. Qu'est-ce qu'il traite? De quoi est-ce que l'autre verset, de quoi il parle? Qu'est-ce que cela veut dire ici? Quel sens cela a ici? Et si nous sommes enseignés de Dieu, alors nous recevons la pleine compréhension sur chaque verset biblique, sur chaque contexte, et nous n'allons plus rien renverser sur la tête, bien au contraire. Nous allons nous laisser tenir sur des pieds de foi. Il y a une chose que je veux vous dire. C'est avec la parole de Dieu que le diable pourra le mieux tromper les enfants de Dieu. Avec la parole de Dieu. Il ne vient pas avec d'autres choses à nous. Il viendra toujours en employant, en utilisant la parole. Mais il va la renverser sur la tête. Il va l'interpréter. Il va tordre le sens comme il a fait avec Jésus lui-même. Sûrement qu'il était créé. Il ne permettra pas qu'il ordonnera à ses anges de te protéger et que ton pied ne heurte aucune pierre. Bien sûr que cela était écrit, mais pas dans ce contexte. Et encore moins pour le diable. Le diable n'a aucun droit d'utiliser la parole de Dieu, de l'employer, de se servir. Combien de fois il a fait? Combien de fois? Je pense à ce jeune homme il n'y a pas longtemps, à Val Thuis, il voulait prêcher. Et je parlais brièvement avec lui sur les signes des temps et sur le retour d'Israël. Et tout subitement, quand il a entendu Israël, il a dit tout de suite, vraiment une phrase insolente. Israël est rejeté de Dieu pour toujours. J'ai dit quoi? Ça, c'est le diable qui vient de le dire par ta bouche maintenant. Oui! Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? La parole de Dieu dit que le Seigneur d'abord les a mis de côté pour que nous soyons acceptés, insérés, mais qu'à la fin, il acceptera Israël. Il agréera Israël. Mais il y en a qui prennent une parole, et c'est écrit aussi quelque part, que, mais il y a plus de cette parole qui sont écrites. Il y a plusieurs paroles qui traitent le même sujet, dans le même contexte. C'est quelqu'un qui prend un seul verset, il peut faire comme Judas, aller se pendre, et un autre lit, tout à fait dans un autre verset, et là il est écrit, va et fais la même chose. Et déjà, ce n'est pas un seul qui se pend, mais un deuxième. Non, le diable veut nous pendre. Et il vient aussi avec cela, avec les croyants. Aux croyants, avec la parole de Dieu. Oh, si nous puissions discerner quand est-ce que le diable parle par un homme. Nous parle par un homme. Et je vais vous dire une chose. Quand le diable parle par un homme, c'est pour asservir les autres. Pour les affliger. Pour les détruire, pour soumettre l'autre personne, pour l'abattre, pour le contrôler d'une manière ou d'une autre, pour exercer un pouvoir sur elle, pour nier son salut, pour nier sa félicité. Mais quand Dieu parle avec nous, c'est pour nous édifier, pour nous consoler, réconforter, bénir, redresser, relever, nous avertir dans l'esprit de la grâce et de l'amour, pas avec un marteau. Mais dans l'amour de Jésus, c'est ainsi que c'est écrit. Exhortez-vous, avertissez-vous les uns les autres dans l'amour en Christ Jésus. Philippiens chapitre 2, verset 1. Paul écrit, si en Christ, il y a un avertissement. Philippiens 2, verset 2 et verset 1. Donc tout doit être dans l'équilibre, dans la balance, avec et dans la parole de Dieu. S'il vous plaît, discernez dès aujourd'hui. Quand quelqu'un vient à vous et vous lit quelque chose de la Bible, discernez la première chose, le motif avec lequel cette personne vient. Et la plupart, on peut déjà discerner par le motif quel esprit, quelle volonté est liée à cela, quelle intention et avec quel motif ils utilisent tel et tel verset. Et par exemple, quand on parle du baptême d'eau, alors le monde entier peut venir à nous et citer Matthieu 28, verset 19 et l'ouvrir et mettre leurs doigts dessus et dire, voilà, ici c'est écrit. Et alors, ils disent de nous que nous rejetons la parole, renions cette parole qui est écrite ici et que nous ne prenons pas au sérieux l'ordre missionnaire du Seigneur et ce que le Seigneur a dit. Et ils sont dans leur jugement complètement faux. Quoique d'un côté, ils se réfèrent à la parole, d'un autre côté, ils n'ont rien compris. Rien compris de ce que le Seigneur a dit ici dans Matthieu 28, verset 19. Car quand ensuite on leur cite Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 38, et toutes les autres écritures dans l'Acte des apôtres, alors ils rejettent, ils refusent d'écouter. Alors ils disent, ça c'est pas le Seigneur qui l'a dit, ça ce sont les apôtres qui l'ont dit. Nous, nous acceptons seulement ce que le Seigneur a dit. Laissez de tels gens partir. Avec eux, le Seigneur n'a pas encore parlé. Est-ce que vous comprenez de quoi il s'agit? On peut prendre des écritures, citer des écritures, employer des écritures, se référer à des écritures. Et malgré tout, ne pas avoir de révélation par l'Esprit sur la parole à laquelle on se réfère. Tout dans le royaume de Dieu est sur la base de révélation. Et vous allez voir, quand nous allons entrer dans l'observation qui nous concerne avec le service prophétique, nous allons voir comment est-ce que les choses sont écrites clairement dans la Bible. Hein? Mais à qui est-ce qu'elles ont été révélées? Seulement un petit troupeau, c'est-à-dire ceux qui sont prêts à faire la volonté de Dieu. Dieu nous prend à son école, mais nous devons être prêts à apprendre. Donc, revenons à ces deux comparaisons dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament avec cette expression extra-observateur. D'Ésaïe, chapitre 42, nous lisons plusieurs écritures. Ésaïe, chapitre 42, ici, l'une des prophéties les plus puissantes se référant à Christ, nous lisons à partir du verset 1. Ésaïe 42, verset 1. Voici 42, verset 1. Voici mon esclave serviteur auquel je tiens, mon élu, en qui mon cœur prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui afin qu'il porte le droit aux nations. Il ne poussera pas de cris et ne fera pas de bruit et sa voix ne se fera pas entendre dans la rue. Il ne brisera pas le conduit plié. Il n'éteindra pas la mèche fumante. Il fera connaître fidèlement le droit. Lui-même ne s'éteindra pas et ne s'effondrera pas avant d'avoir fermement établi le droit sur la terre. Les terres maritimes attendent déjà son instruction. Combien croient que cette parole est une prophétie se référant à Jésus-Christ? Dites amen. À 100%. Une prophétie se référant à Jésus-Christ. Quand est-ce qu'il était esclave-serviteur? Comment est-ce qu'il était esclave-serviteur? Comme prophète, il était esclave-serviteur. Et il a fait la volonté de Dieu. Ces deux mots sont toujours écrits ensemble. Les esclaves, serviteurs et prophètes. Il était prophète. Et il était esclave, serviteur. Comme esclave, serviteur envoyé. Il avait pris une forme de serviteur, d'esclave, serviteur. Et en tant qu'esclave, serviteur, il a été obéissant jusqu'à la mort de la croix pour que nous, qui étions esclaves, serviteurs du péché, nous puissions être délivrés et ensuite, comme fils et filles de Dieu, pouvoir ainsi faire la volonté du Seigneur. Comme esclave serviteur, il dit ici, celui qui m'a envoyé est avec moi parce que je fais en tout temps ce qui lui est agréable. Combien de fois notre Seigneur, comme ici par exemple, a parlé comme esclave serviteur dans son abaissement. Et ensuite, on voit les théologues à côté de hier et déjà d'aujourd'hui qui prennent cette citation-là où le Seigneur parle comme esclave serviteur. Ils se servent de ces versets bibliques et ils les prennent contre un autre verset biblique. Au lieu de les ordonner divinement dans l'ordre biblique et de comprendre que le Seigneur ici parle en tant que celui qui s'était dépouillé de sa gloire et qui avait apparu entièrement en forme humaine, pour être parfaitement le Dieu homme ici sur terre, pour ramener les hommes qui lui seront donnés dans la pleine divinité, c'est-à-dire en faire des fils et des filles de Dieu. Mais les hommes lisent qu'il allait prier. Parce que ça, ce ne sont pas des attributs de mon Seigneur. Mon Seigneur n'a pas besoin de prier. Mon Seigneur peut être adoré. Mais Jésus priait. Il est allé, il s'est retiré. Pour aller prier, il s'est mis à genoux. Comme Seigneur, comme roi, comme juge, il n'a pas besoin de prier, sûrement pas. Mais comme fils de l'homme, dans son abaissement, comme esclave serviteur du Seigneur pour faire sur cette terre la volonté de Dieu, il fallait que toutes ces choses-là soient ainsi dans sa vie pour que le dessein du salut de notre Dieu ici sur cette terre puisse être réalisé. Mais celui qui, comme déjà dit, prend certaines écritures où il est montré comme esclave serviteur, les gens disent, bon, non, il n'a rien de divin. Il y en a qui prétendent, c'est toute une congrégation, une direction de foi qui prétend que Jésus était créé et n'est pas Dieu, encore moins l'un des trois personnes. Il n'a rien de divin. Il n'est pas la divinité. Et il prend cette verset biblique-là et qui le montre dans son humanité, comme homme, ou bien qu'ils l'ont décrit comme homme. Et il s'attache à ces versets-là. Et à quoi vous pensez maintenant? Moi, je pense à cette expression de frère Branham, alors qu'après une réunion, il y a une femme qui était venue de la science dite chrétienne. Science, c'est bien, mais pas quand on ajoute à la science dite chrétienne, alors c'est science chrétienne, alors non, c'est pas bien du tout. Alors, après la réunion, cette femme est venue à lui et lui a dit, mais tu essayes de faire du Seigneur Dieu. Il a dit, mais il est Dieu. Moi, je n'ai pas besoin de le faire Dieu. Et cette dame a eu vraiment le courage et a dit, mais si moi, de la Bible, je te montre qu'il était homme, est-ce que tu le croiras? Alors, il a dit, mais si la Bible le dit ainsi, le montre ainsi, et vous connaissez toute cette prédication. Et alors, elle s'est référée à Jean chapitre 11, où Jésus, devant la tombe de Lazare, pleurait. Et sa question a été, comment est-ce qu'il peut être divin et pleurer comme un homme? Mais c'est justement ça, le plus grand et le plus précieux des mystères qui a existé, qui existe et qui existera, que Dieu, en forme humaine, pouvait se révéler, se manifester. C'était un homme qui pleurait là-bas. Mais quand la puissance sur la mort a été exercée, alors là, c'était plus qu'un homme. Quand il a été dit, Lazare, sors! Et le mort s'est tenu sur ses pieds et est sorti. Ça, c'était plus qu'un homme. Dieu et homme en un seul. Il devait jouer le rôle, avoir le rôle d'un esclave serviteur, avoir le rôle d'un sacrificateur, le rôle d'un agneau, le rôle d'un avocat, le rôle d'un médiateur. Il devait être plusieurs choses. Oui, tout en tous. Mais lorsque le temps sera achevé et que toutes les choses se réuniront à nouveau après que nous serons entrés dans la perfection, alors nous le verrons tel qu'il était et tel qu'il est dans l'éternité. Ici, il est écrit, afin qu'il porte le droit aux nations. Ésaïe 42, verset 1. Maintenant, lisons encore dans Ésaïe 42, rapidement, les versets peut-être à partir du verset 6. Maintenant, Ésaïe 42, verset 6. Maintenant, moi, l'Éternel, je t'ai appelé dans la justice. Je t'ai pris par la main. Je t'ai gardé et j'ai fait de toi une alliance des peuples. Il y a deux traductions qui le disent autrement, mais ici c'est une alliance des peuples. Une lumière pour les nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir du cachot les prisonniers et de la prison ceux qui sont assis dans les ténèbres. Je suis l'Éternel, tel est mon nom. Je ne donne mon honneur à personne d'autre, ni ma gloire aux idoles. Par ce que Jésus-Christ a fait, Dieu a été honoré et glorifié. Et chaque homme qui a été sauvé glorifiera Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Il lui donnera à lui toute l'honneur. Ici, il s'agit de l'alliance qui a été faite. Et Jésus disait, ceci est la nouvelle alliance dans mon sang. Je fais de toi une alliance des peuples. Avec cette alliance faite, elle a été faite avec toi, avec moi, avec tous les peuples. Pas seulement avec un seul peuple, mais à une alliance des peuples et une lumière pour les nations. Pas seulement pour une lumière pour Israël, mais pour les nations. Pour que toutes les extrémités de la terre voient la gloire et le salut de notre Dieu. Toutes les Écritures devaient s'accomplir. Est-ce qu'il a fait cette alliance? Est-ce qu'il a fermement établi le droit et la justice sur terre? Absolument. Fermement établi le droit et la justice sur terre. Absolument. Lisez avec moi dans Matthieu, chapitre 12, car ici, l'évangéliste l'a encore relevé de l'Ancien Testament et écrit la chose suivante. Matthieu, chapitre 12, verset 17. Matthieu 12, verset 17. Ainsi devait s'accomplir la parole du prophète Ésaïe qui dit: voici mon esclave, serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui mon cœur a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui et il annoncera le jugement aux nations païennes, ou bien alors ici en parenthèse, le droit aux nations païennes, le droit. Il ne se disputera pas, il ne criera pas et personne n'entendra sa voix dans les rues. Il ne brisera pas le conduit plié, il n'éteindra pas la mèche fumante jusqu'à ce qu'il ait exécuté victorieusement le droit. Et en son nom, les nations païennes mettront leur espérance. Alléluia. Gloire soit au Dieu vivant. Le temps est avancé. De cette écriture, de cette parole de l'écriture, on pourrait relever plusieurs choses, souligner plusieurs choses. Mon bien-aimé, en qui mon cœur a pris plaisir. En qui j'ai trouvé mon bon plaisir, mon affection. Qu'est-ce que nous avons lu dans Matthieu 3? Qu'est-ce que nous pourrons lire dans Matthieu 3? Voici, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Qu'est-ce que nous avons lu dans Matthieu 17? Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai trouvé toute mon affection. Écoute. Écoutez-le. Est-ce que vous remarquez l'accord avec les Saintes Écritures? Dans les Saintes Écritures, il fallait qu'il y ait sur terre un Dieu homme, un être humain d'origine divine. Alléluia, alléluia. Un être humain d'origine divine. Un Dieu homme. Et duquel il peut être dit, il est le commencement de la création de Dieu. Oh, quand nous pensons à cela, alors l'Esprit de Dieu vient sur nous. Alors la rédemption nous est révélée. Et aussi le Rédempteur. Mon bien-aimé, en qui mon cœur a pris plaisir. Matthieu 12, verset 18. Je relis. Je mettrai mon esprit sur lui. Est-ce que cela a eu lieu? Est-ce que cela n'a pas eu lieu? Ou bien alors cela n'a pas eu lieu? Cela a eu lieu! Et si nous sommes en Christ, alors le bon plaisir de Dieu est aussi sur nous. Alors l'Esprit de Dieu vient sur nous. Le même Saint-Esprit, pas seulement un peu d'onction, mais la vie de Dieu lui-même, la puissance de Dieu, la nature de Dieu, tout ce que Dieu est, n'est-ce pas, par le Saint-Esprit, a été accordé au peuple de Dieu. Tous les dons, tous les fruits de l'Esprit, tout ce qui appartient à la vie de Dieu. Mais ses paroles et ses pensées sont précieuses ici. Maintenant, le verset 20 de Matthieu 12, il ne brisera pas le conduit plié. Combien ne se sentent pas seulement comme ça, mais sont pliés. Hier, encore tard dans la nuit, il y a eu des appels téléphoniques. Ce matin, très tôt, déjà très tôt le matin, j'ai reçu des appels téléphoniques. Pliés. À l'autre bout du fil, seulement des pleurs. Pardonne-nous. Pardonne-nous ce que nous avons fait, bien ce que nous avons dit. Et ensuite, cette expression. Nous sommes affligés, pliés. Depuis lors, tout va de travers. Je peux que dire, je pardonne ceux tels que Dieu m'a pardonné en Christ. Le plein pardon, l'expiation. Ici, il y a la promesse. Il ne brisera pas le conduit plié. Ça, ce sont les hommes qui le font. Quand quelqu'un est déjà affligé et est déjà plié, alors il lui donne le dernier coup. Mais le Seigneur le fait différemment. Il ne fait pas ça. Lui, il redresse, il relève, il donne de nouvelles forces, il relève. Il verse de l'huile dans la lampe pour que la mèche fumante puisse de nouveau brûler et s'allumer. C'est comme ça qu'il a dit et qu'il le fait aussi. Il n'éteindra pas la mèche. Mais je voudrais relever cela. Jusqu'à ce qu'il ait exécuté victorieusement la justice et le droit. Pas seulement exécuté, pas seulement rétabli, mais victorieusement exécuté et rétabli. Jésus est vainqueur. Il a victorieusement réussi l'œuvre, victorieusement exécuté et rétabli, et cela à cause de nous. Il est le vainqueur, le victorieux, et c'est par lui que nous aussi nous serons vainqueurs et nous vaincrons. Une parole merveilleuse. Vu terrestrement, cela semblait comme si c'était la plus grave défaite que quelqu'un ait reçue sur terre, ait vécu sur terre. Abandonné de tout, rejeté, frappé, craché sur lui, abandonné, et encore nu, accroché sur la croix entre le ciel et la terre. Cela a eu lieu à cause de nous. Nous croyons ce que la Bible dit. Il a fermement établi le droit et la justice sur la terre. Et il a exécuté victorieusement. Et nous voulons le croire que nous avons été et que nous sommes insérés dans cette œuvre. Ça a eu lieu pour les racheter. Et c'est cette raison que ce sera manifesté dans les rachetés comme un triomphe. Ça doit être manifesté dans les rachetés comme un triomphe de notre Dieu. Et à la fin, cette victoire accordée sera encore manifestée visiblement. Et ça, nous le disons avec Samson dans l'Ancien Testament. Et avec cela, nous tenons les piliers et nous disons encore une fois, Seigneur. Et si cela arrive encore, alors nous n'allons pas frapper dans le vent. Alors, je vous dis que des piliers seront saisis et plusieurs choses seront ébranlées. Plusieurs choses diaboliques vont s'écrouler pour que l'œuvre de notre Dieu, victorieusement, vienne à son achèvement. Loué et exalté soit le nom du Seigneur. Amen. Amen. Levons-nous pour adorer. Peut-être que certains frères, plusieurs frères, ont dans le cœur brièvement de remercier le Seigneur. Toi, notre rédempteur, celui qui nous a délivrés, notre sauveur, tu es tout pour nous en tous et nous te remercions. Seigneur, tu as exécuté la justice victorieusement et établi fermement le droit et la justice et a exécuté le droit victorieusement. Alléluia, alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Seigneur, rends-nous reconnaissants et que tu puisses nous remplir de louanges, d'exaltations, d'allégresse, de manière céleste. Alléluia. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Mon Dieu. Mon Dieu. Comme tu es grand. Comme tu es merveilleux. Comme tu es merveilleux. Alléluia, oh Seigneur. Oh Seigneur. Profondément abaissé, mais et ensuite élevé au-dessus de toutes choses. Alléluia. Alléluia. Seigneur, tu es mort, mais tu es aussi ressuscité. Tu as vaincu la mort, l'enfer. Alléluia. Alléluia. Oh, nous te remercions. Et nous t'adorons. Alléluia. Comme tu es grand, de tout mon cœur, je t'exalte. Mon cœur te loue, toi grand roi, comme tu es grand. Oh, comme tu es grand. Combien ressentent et remarque que le Seigneur nous prend dans l'enseignement pour nous donner une vie encore plus profonde de sa volonté, je le remarque. Comment est-ce que l'Esprit presse et comment est-ce que nous pouvons dire Amen à chaque parole, que nous voyons le Seigneur comme fait de lui aucun cas. C'est écrit comme ça dans Ésaïe 53. Dédaigné. Et alors qu'il disait, mon Dieu, pourquoi tu m'as donné? Alors nous savons que c'est écrit aussi dans le psaume 22. Et dans Ésaïe 53, verset 3, tout était l'écrit, l'accomplissement des Écritures, quand nous le voyons dans son abaissement, comme homme, comme esclave serviteur, comme fils de l'homme. Nous ne nous heurtons pas à cela. Nous savons que il avait cette forme humaine, il a changé en forme de Dieu. Il est reparti dans le corps spirituel. Nous savons seulement qu'il est venu pour prendre une forme humaine, pour accorder la rédemption et nous faire passer de la forme humaine à la forme de Dieu. Tout cela a eu lieu, n'est-ce pas? Parce que ça faisait partie du plan de la rédemption. Avant de pouvoir devenir semblable à lui, il fallait qu'il devienne semblable à nous. Avant que nous puissions vivre éternellement avec lui, il fallait qu'il puisse sur cette terre ici mourir pour nous. Avons-nous compris cela? Il fallait qu'il vienne sur cette terre, vivre pour nous et mourir pour nous. Je le crois. Je crois que nous avons compris. Mais malgré tout, nous lui donnons tout l'honneur et la gloire parce que nous savons, malgré tout ces devoirs qu'il avait à accomplir, il demeure le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois dans toute éternité. Seulement, quand nous pouvons encore bien classer dans l'ordre biblique ces choses qui ont eu lieu pour nous, alors nous nous sentons vraiment bien dans notre âme. Alléluia, gloire soit à notre Dieu. Oh, que nous puissions vraiment avoir un cœur qui exalte, une exaltation, une allégresse qui vient du cœur. Et vraiment, remercier le Seigneur, pas par obligation, mais parce que nous nous sentons poussés à le faire. Oh, nous voulons, n'est-ce pas, tomber sur notre face à ses pieds et adorer et dire, Seigneur, qu'est-ce qui t'a poussé à faire tout cela, à prendre tout cela sur toi? C'est comme ça que tu nous as aimés. Et tu es passé par le chemin que nous aurions dû entreprendre et mourir, la mort que nous aurions dû mourir. Tu as réglé tout cela pour nous, pour que nous soyons sauvés. Remercions encore et remercions. Nous devrions encore et encore et encore remercier notre Seigneur. Et il est écrit, celui qui m'apporte de la louange, de la reconnaissance, il me loue, qu'il me loue. Et c'est ainsi que nous voulons encore remercier le Seigneur, apporter de la reconnaissance au Seigneur. En ce que d'abord, nous chantons ce cœur, tu es digne. Et je voudrais encore faire cette remarque. Ça ne doit pas être toujours être à haute voix fort. Nous remarquions aussi hier, c'était si puissant. Mais dans une atmosphère merveilleuse, tout en harmonie les uns avec les autres. Nous voulons aussi faire attention. Si ça devrait être à haute voix, nous suivons, mais pas de nous-mêmes. Tout doit être conduit et produit par l'Esprit de Dieu. Alors c'est vrai, c'est authentique, ça a de la substance. Alors nous nous réjouissons tous dans le Seigneur, notre Dieu. Et notre âme loue sur Dieu, notre Sauveur, notre Rédempteur. Nous levons les mains, chantant encore ce cœur. Tu es digne. Tu es digne. Tu es digne. Ô Seigneur. Tu es digne de recevoir gloire et honneur et adoration. Tu es digne, ô Seigneur. Dieu fidèle, tu es digne de recevoir louange et honneur, gloire et adoration. Reçois la louange, reçois l'adoration, reçois la reconnaissance pour ta sainte et précieuse parole que nous avons pu de nouveau écouter ce matin. Tu nous as éclairci et tu as rafraîchi nos cœurs par ta puissante parole. Tu nous as enseigné, ô Seigneur fidèle. Tu es notre enseignant, notre maître. Alléluia, alléluia. Adoration et louange soit à toi. Tu es tout pour nous devenu. Tu es notre Père. Tu es devenu tout pour nous en tous. C'est pour cette raison que nous t'adorons et louons et élevons ton saint nom qui est au-dessus de tout nom. Alléluia. Gloire et honneur et adoration à ton merveilleux nom de Jésus. Amen.